France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, la science du changement de camp. Épisode 3, le hérisson sort ses pics. De nouveau, une question se pose. Jusqu'à quel point peut-on échapper à son éducation? Et une autre question aussi. Jusqu'à quel point peut-on échapper aux impensés de son époque? Nous continuons de garder en tête ces deux interrogations pour parler de Marie-Madeleine Fourcade, passée des milieux de Vichy à ceux de la Résistance. Marie-Madeleine Fourcade est née en 1909 dans un milieu où l'idée de hiérarchie sociale était très présente. Un milieu d'une droite très à droite, au sein d'une lignée prestigieuse dans laquelle on compte par exemple le marquis de Bacqueville. Ce marquis de Bacqueville était né en 1688 à Bacqueville, comme il se doit. Il n'était déjà plus un jeune homme quand, à 54 ans, il était monté sur le toit de l'hôtel de Bouillon sur l'actuel quai Voltaire à Paris. Il portait sous le bras une paire d'ailes artificielles. Bacqueville enfila les ailes qu'il s'était confectionnées, prit quelques respirations un peu plus profondes que d'ordinaire, puis se jeta dans le vide, réalisant ainsi ce qui avait constitué le rêve de toute sa vie, voler comme un oiseau. Malheureusement, le vol ne dura pas très longtemps, le pauvre marquis s'écrasa sur une péniche qui mouillait dans le fleuve et il se cassa le bras. Seulement un bras, pourrait-on dire, preuve que ses ailes avaient au moins amorti sa chute et lui avaient permis de parcourir dans les airs une distance d'environ 300 mètres. Il venait d'effectuer la première tentative de vol d'un être humain répertorié à ce jour, mais ne retenta jamais l'expérience car il était devenu la risée de ses contemporains.
La science du changement de camp, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Cornaer.
On l'a compris avec l'histoire du marquis, dans la famille de Marie-Madeleine Fourcade, on est assez habitué à l'extraordinaire. Son enfance, par exemple, n'a pas été celle de tout le monde. Son père était le sous-directeur des messageries maritimes françaises. La famille vivait loin de France, notamment en Chine et au Japon. Il était au passage, son père, lié au deuxième bureau de l'armée. Autrement dit, il pratiquait le renseignement pour le compte de l'État. Et oui, le père de Marie-Madeleine Fourcade était un espion. Et ça non plus, ça n'est pas banal. Quant au quotidien de cette petite fille, qui réalisa un quasi-tour du monde à 8 ans, eh bien voilà à quoi il ressemblait.
De cette partie de votre enfance, quel est le pays qui vous a le plus marqué et pourquoi?
De mon enfance, c'est certainement la Chine où j'ai le plus habité pendant 5 ans. La Chine l'hiver et le Japon l'été. Alors je connaissais mieux la Chine parce que j'y restais plus de temps, mais je connaissais aussi très très bien le Japon. Alors les deux m'ont marqué d'une façon différente, mais avec des paysages extraordinaires qui sont toujours devant mes yeux.
Votre enfance là-bas, c'est aussi une éducation? Vous aviez une éducation à l'occidentale ou vous étiez intégrée?
Ah oui, parce que nous étions de la période où il y avait encore des concessions à Shanghai. Les concessions, il y en avait 3. Il y avait la concession française, anglaise et internationale. Et alors, c'était une sorte de lobby, n'est-ce pas, entre gens de notre espèce. Mais nous frayons beaucoup avec les Chinois. Nous avions beaucoup d'amis chinois. Ma mère, qui était très éprise de paysage, attirait toujours notre attention sur ce qui était beau. Et alors, elle nous emmenait, ainsi que mon père, nous avions un houseboat, vous savez, une sorte de péniche organisée pour la famille, sur les canaux chinois. Et on traversait sous les ponts merveilleux, on voyait les villages, on voyait des choses extraordinaires, la Chine profonde.
Et lorsque vous avez pris le bateau du retour?
Nous sommes partis par l'Amérique. C'est là la fin du tour du monde. Hawaï, alors tout l'océan Pacifique bien entendu, un océan très dur, avec un bateau pas très bon, c'était un vieux rafio. Qui s'appelait le Rembrandt. C'était pas un rafio de papa. Et puis, nous avons vu, bien sûr, cette merveilleuse île Hawaï, avec les poissons, avec tout ce qu'il y avait à l'époque d'extraordinaire. Et puis, San Francisco. Alors là, nous avons été bouleversés par les buildings, par une chose complètement différente de ce que nous avions vu jusqu'alors. Et nous avons traversé l'Amérique en train, ce qui prenait environ 4 jours et demi, 5 jours. Et alors là, nous avons vu en train tout ce qu'on pouvait voir, surtout à l'arrière du train. Il y avait à ce moment-là, je ne sais pas s'ils le font toujours, il y avait une sorte de balcon qui ornait le dernier wagon. Et on pouvait se mettre sur ce balcon et on voyait défiler l'Amérique.
Alors vous traversez l'Amérique et vous arrivez où ? À New York, je suppose ?
Et là, il fallait traverser l'Atlantique. Alors ça, c'était la mer aux harengs, elle était pleine de sous-marins. Et papa le savait. Alors il espérait avoir un convoi, il n'y a pas eu de convoi. Et le bateau de, je crois que c'était notre Atlantique, a pris la mer. Et il y avait à bord, c'était aux environs du 14 juillet, Caruso et Lina Cavalieri qui ont chanté la Marseillaise à bord le jour du 14 juillet.
Véronique Chalmet, vous êtes spécialiste en histoire et en criminologie et vous avez rédigé le chapitre sur Marie-Madeleine Fourcade dans le livre « Changer de camp » aux éditions Novice. Qu'est-ce qui vous retient dans cette archive de 1989 ?
Alors, tout d'abord, beaucoup d'humour de la part de Marie-Madeleine Fourcade. C'est quelqu'un de très pétillant, très intelligent. Et puis très cosmopolite, justement, et ça va la suivre toute sa vie. À ses funérailles, le père Riquet a dit qu'elle avait un cœur viril. Mais je pense que ce cœur viril, c'est un cœur très téméraire surtout. Et toute son enfance est très emblématique de ce qu'elle va devenir ensuite.
En même temps, on entend un accent de grande bourgeoisie, à la fois dans le trajet qu'elle fait si jeune autour du monde, et puis en même temps dans la façon dont elle le raconte.
Oui, elle a une vie totalement incroyable pour l'époque, puisqu'on n'avait pas l'habitude de voyager comme ça quand on faisait partie du commun des mortels. D'ailleurs, elle parle des gens de son espèce.
Donc il y a une certaine distance,
oui,
quand même, un
oui,
peu
oui.
aristocratique.
Elle est très consciente de tout ça, mais c'est peut-être aussi ce qui va l'amener à se rapprocher des gens par la suite. C'est quelqu'un qui est plein d'empathie, plein de compassion, parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs qui lui sont inculquées, puisque son milieu est très privilégié, mais c'est un milieu aussi catholique, chrétien, non pas forcément grenouille de bénitier, mais au contraire, qui cherche à pratiquer réellement la miséricorde, la compassion, les grandes valeurs.
Un côté un peu scout peut-être aussi ?
Voilà, tout à fait, pourquoi pas.
Son milieu d'origine la porte très naturellement vers la droite de la droite.
Oui, bien sûr, parce que son père est officier, sa mère, qui était franco-argentine, vient aussi d'une famille d'officiers. Sa sœur épousera aussi un officier, puisqu'il est de la famille Georges Picot. Elle-même, elle admirera toujours les hommes d'uniforme, quoi, finalement.
Elle se marie d'ailleurs à 17 ans avec Édouard Méry, qui est un militaire de 8 ans son aîné.
Tout à fait, de Saint-Cyr. Et puis je pense surtout qu'elle voue une admiration quasi sans borne à son père. Et c'est ce qui va tout au long de sa vie finalement la pousser vers des hommes qui lui ressemblent. Donc des hommes qu'elle espère intègres. Bon, certains ne le seront pas toujours, malheureusement. Mais en tout cas, qui véhiculent toutes ses valeurs.
Peut-être un mot sur l'archive et sur sa date exacte, c'est le 3 mai 1989 qu'elle a été enregistrée, elle a été diffusée en juillet de cette même année, parce que c'est en juillet qu'est morte Marie-Madeleine Fourcade. Étrange d'imaginer, avec la vivacité qu'on entend dans la voix de cette personne en mai, qu'elle puisse mourir en juillet.
Oui, oui, c'est totalement surprenant et en même temps, c'est un personnage très jusqu'au boutiste, aussi bien physiquement que mentalement, spirituellement. Actuellement, politiquement aussi, d'ailleurs, à un moment donné.
Le milieu dans lequel évolue Marie-Madeleine Fourcade, qui s'appelle d'ailleurs Méric à cette époque, en 1934, est donc très militaire, très nationaliste. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer un homme dont on entend ici la voix dans une archive qui est très postérieure.
Monsieur Loustalot-Lacour.
Pour moi, c'est clair. Une fois l'Allemagne réarmée, les Alliés n'auront plus rien à lui offrir, la France en particulier, ils lui auront tout donné, et elle se tournera alors fatalement vers l'URSS, qui seule peut lui vendre sa souveraineté et son unité. Et alors l'URSS arrivera ainsi à son objectif essentiel, le calme en Europe, pour pouvoir placer sous sa coupe l'immense chantier qu'est l'Asie. Or la France a besoin elle aussi du calme en Europe, pour pouvoir dominer aisément ses soucis africains. Je regrette que l'intérêt français ne se conjugue pas en l'espèce avec les intérêts anglo-saxons, qui veulent au contraire la permanence de la pénétration commerciale en Asie, et pour qui l'Europe, au fond, passe au second plan.
Cette voix, c'est donc celle du commandant Georges Loustanolako, qu'on entendait au micro de la RTF le 1er février 1955. Qui était cet homme et pourquoi est-il si important dans la vie de Marie-Madeleine Fourcade ?
Alors, c'est presque un mentor pour elle, finalement, parce qu'elle l'a rencontré pour la première fois en 36, dans un salon, en fait, qui était celui de sa sœur. Sa sœur organisait des thés. Elle rassemblait des chefs d'entreprise, des officiers, etc. Et donc, en l'occurrence, en 36, elle a invité donc Loustanolako, qui était un héros de la Première Guerre, qui était aussi un personnage alors ultra conservateur, qui était vraiment très ancré à droite, qui était totalement anticommuniste, qui était très très militant, assez complotiste aussi. Enfin, c'était un personnage qu'aujourd'hui on trouvera certainement très sulfureux, quoi. Et en face de lui, autour de cette tasse de thé, eh ben on trouve le général, enfin futur général de Gaulle,
le lieutenant-colonel Gaulle, mais bon, qui n'est pas plus connu que ça.
Non, et qui en fait qui est un condisciple de Loustanolako. Et Marie-Madeleine Fourcade saisit la conversation au vol entre eux, puisqu'ils sont en train de parler du réarmement de la Rhénanie, du fait que l'Allemagne est un danger auquel l'armée française doit faire face d'une manière différente. Et finalement, ils veulent préparer la guerre, tous les deux. Et elle est complètement d'accord avec eux, elle abonde dans leur sens, elle dit beaucoup de choses qu'ils trouvent extrêmement pertinentes. Et Loustanolako va donner rendez-vous à Marie-Madeleine, parce qu'il trouve qu'il pourrait peut-être avoir besoin de ce potentiel qu'ils sont chez elle. Et puis aussi, il est intéressé parce que bon, elle a beaucoup d'entre-gens, mais également, bon, elle a ce côté un petit peu de son ancêtre de Bacqueville. Elle sait conduire une voiture, elle fait des courses automobiles, même à l'époque.
Donc elle est téméraire.
Voilà, elle est très téméraire, elle sait piloter un avion, et ça peut lui être extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que lui, en fait, il fait du renseignement. Donc, elle est parfaite, parce que finalement, on la soupçonne, a priori, on la soupçonnerait de rien. Donc il saisit au vol cette occasion, il va lui proposer de travailler avec lui et elle va accepter.
Alors c'est là qu'elle travaille dans des revues de Loustanolako qui sont des revues d'extrême droite. Il y a aussi un moment important qui est qu'elle va travailler à la radio, Marie-Madeleine Fourcade.
Oui, elle va travailler à Radio Cité, qui est la radio de Bleustein-Blanchet. Le père de la publicité moderne. Et puis elle va travailler avec Colette aussi. Alors à l'époque, elle fait des chroniques de mode, donc mais ça ajoute un petit peu plus aussi à sa couverture finalement, enfin à la couverture qui va être la sienne quand elle va commencer ses activités avec Loustanolako. Alors bon, elle est très ancrée à droite aussi de par son éducation, mais elle va assez vite se démarquer de certaines caractéristiques de Loustanolako, qui est toujours très virulent, qui publie des auteurs antisémites. Donc ça correspond pas à Marie-Madeleine ni à ses convictions.
On sait qu'elle n'est pas du tout antisémite. Est-ce qu'il y a des preuves de ça, ou c'est simplement qu'elle ne s'est pas manifestée dans l'antisémitisme ?
La preuve, c'est qu'elle est devenue un des piliers de la LICRA après-guerre. Alors certains diront ça n'est pas une preuve, peut-être, mais en tout cas, elle n'a jamais écrit, jamais rien dit qui soit à caractère antisémite. Et pourtant, Dieu sait qu'elle était entourée de gens qui l'étaient.
La débâcle et l'armistice de 1939 frappent Marie-Madeleine Fourcade de stupéfaction. Elle envisage d'abord de partir pour Londres, mais choisit finalement de rester en France. Contrairement à Loustanolako, elle ne se berce pas d'illusions sur ce que va être Vichy. Finalement, c'est ensemble qu'ils vont décider de noyauter le régime pétainiste de l'intérieur.
Nous sommes allés à Vichy.
Alors là, c'est l'hôtel.
Alors, c'est l'hôtel. Ah oui, alors c'est de la vie d'hôtel. Enfin, c'était bien heureux quand on avait des hôtels. Alors, la vie d'hôtel, un général merveilleux qui était retraité, qui s'occupait non pas de cognac, mais c'était d'Armagnac. Il s'appelait général Baston, c'est merveilleux pour un nom, pour un général Baston. Stenou et général Baston vont voir Pétain et disent, voilà, il y a trop de prisonniers évadés ou malades, il faudrait une maison pour les recueillir. Alors nous avons pensé avec Baston qu'on en ferait une. Nous avons loué l'hôtel des sports. Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, très bien, dit Pétain, excellente idée. Alors, sous couleur de recueillir des prisonniers, nous recueillons les gens qui voulaient résister. C'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Et à Noël, déjà, nous étions 100.
100.
100, les 100 premiers du réseau.
Véronique Chalmé, qu'est-ce que vous entendez dans cette archive ?
Alors, elle raconte ses débuts donc, à Vichy. Donc, c'est assez étonnant. Elle était contre au départ. Elle pensait qu'il fallait aller à Londres. Et puis, Loustonolaco lui a fait valoir qu'il fallait agir de l'intérieur.
Mais Loustonolaco, qui au départ n'était pas convaincu qu'il fallait forcément lutter contre le régime de Vichy, il a fallu le convaincre.
Oui, il était complètement. Lui, il était assez pétainiste. Et puis, finalement, il pensait que Pétain allait se reprendre, allait faire quelque chose. Mais ils ont accueilli finalement dans cette espèce d'hôtel qui était d'ailleurs validé par Pétain au départ. Donc des gens qui étaient démobilisés, des soldats qui s'étaient évadés, enfin voilà. Et puis très vite quand même, Pétain s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche dans cet hôtel, parce que Loustonolaco et Marie-Madeleine en profitait pour monter un réseau en fait de renseignements anti-allemands. Donc Pétain a interdit, enfin a fait démanteler leur petit hôtel, effectivement. Ça a été le début de l'entrée en clandestinité en fait du réseau.
Elle devient ce qu'on appelle une vichisto-résistante. C'est quoi exactement une vichisto-résistante ?
Alors c'est compliqué, et puis il y a tout un éventail de sensibilités, je dirais, et de parcours en fait qu'on peut regrouper sous cette étiquette. Mais disons que, encore une fois, c'est quelqu'un qui pensait, jusqu'en 1940, été 40, qu'il était possible quand même de continuer à cheminer avec Pétain. Mais quand De Gaulle a été condamné par contumace, là, c'est, pour elle, c'était terminé.
Pour protéger les membres du réseau, Marie-Madeleine Fourcade utilisait des pseudonymes et chacun choisissait un nom d'animal en fonction de sa personnalité. Pour elle, c'était le hérisson. Au quotidien, c'est avant tout de l'angoisse que ressent celle qui est devenue la chef du réseau Alliance, de l'angoisse davantage que de la peur.
Comment cela se traduit la peur, Marie-Madeleine Fourcade ?
La peur est très diverse et varie selon les individus. En ce qui me concerne, la peur pour moi c'était surtout de l'angoisse, une angoisse permanente. Je crois que si j'avais eu peur, je serais partie en courant et on ne m'aurait plus revue. Mais l'angoisse, c'était avant les actions, dans la préparation des actions, dans évidemment l'exercice du commandement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de distribuer des missions. Alors là, c'est l'angoisse. Et puis se présente l'événement. L'événement dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'arrestation, le piège. Alors là, la peur disparaît, parce que vous avez agi tout de suite. Pas de panique, il faut penser à la suite. Donc, en ce qui me concernait, je n'avais jamais peur ce moment.
Au bon moment, vous n'aviez pas peur.
Au bon moment ou au mauvais moment, si vous voulez, je n'avais pas peur. Alors après, la peur peut être rétrospective, mais comme d'autres événements se produisent, on n'a plus le temps d'y penser. La peur est dans mon âme maintenant, si vous voulez, mais pendant non.
Mais pendant certaines actions, enfin, qui semblent fabuleuses dans votre livre, votre évasion de la prison d'Aix-en-Provence, pendant ce temps-là, vous n'avez pas eu peur.
Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'avais quelque chose à faire.
Marie-Madeleine Fourcade, qui évoque dans cet archive son évasion de la prison d'Aix-en-Provence. Racontez-nous ce qui s'est passé, Véronique Chalmé. Elle s'est donc faite arrêter ?
Oui, c'était en juillet 44, et puis elle est emmenée donc à la prison d'Aix. On a voulu la faire parler, mais elle a dit « Je détiens des informations trop importantes, il faut un responsable de la police allemande pour m'écouter. » Donc, ça lui a fait gagner un petit peu de temps. Et dans sa cellule, elle a cherché désespérément un moyen de s'enfuir. Elle était très amaigrie parce que quand même, on était en 44, elle mangeait très peu, elle était rongée d'angoisse, pas de peur, mais d'angoisse parce que elle disait je m'attendais tous les jours à mourir. Donc finalement, c'était plus une angoisse qu'elle ressentait pour son réseau et pour ses amis que pour elle-même.
De ne pas avoir la force peut-être de subir la torture et peut-être de parler.
Voilà, absolument, peut-être. Mais en tout cas, elle voit à ce moment-là, quand elle, donc cette nuit de juillet 44, elle voit dans sa cellule que les barreaux peut-être pourraient lui permettre de passer entre, en fait, de glisser entre, puisqu'il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de grillage entre ces gros barreaux. Donc, elle se déshabille totalement, elle se met complètement nue. Je pense que l'angoisse, l'adrénaline font qu'elle transpire, elle glisse une jambe, elle glisse les hanches, et le plus difficile, c'est la tête, parce que, bon, voilà. Et elle manque s'arracher les oreilles, enfin, c'est une horreur. Et puis, finalement, elle arrive à se sauver comme ça. Et elle se rhabille, elle arrive en sang justement chez la personne dont elle savait que les Allemands devaient aller en second lieu après là où elle se trouvait pour arrêter. C'était Grand-Duc, c'était un des agents de son réseau, avec sa femme enceinte, son enfant, etc. Donc elle arrive, elle tombe dans ses bras, elle s'évanouit, elle lui dit « il faut partir ». Enfin, juste avant, elle a trouvé la force de lui dire « il faut partir ». Et donc elle les a sauvés tous les trois, mais c'était uniquement ce qu'elle avait en tête à ce moment-là, c'était sauver les gens de son réseau.
Et pendant ce temps-là, Loustonolako est également arrêté et lui est torturé pendant 6 mois par la Gestapo.
Oui, il est torturé et puis bon, lui de toute façon, il ira à Mauthausen et il reviendra uniquement après la guerre. Marie-Madeleine a été en charge, totalement en charge du réseau à partir de 1941. Elle était la seule tête pensante avec, à partir de 42, Léon Faye, qui était sa grande passion pendant la guerre. C'était vraiment son âme sœur, son alter ego. Et c'était un camarade de Loustonolako, mais il n'avait pas l'emportement, la passion, le côté complotiste de Loustonolako. Elle est tombée sous le charme parce que c'était un véritable guerrier, c'était un héros de guerre lui aussi, il s'était engagé à 19 ans, enfin il avait fait des choses incroyables. Et elle, là encore, je pense qu'elle l'a beaucoup rapproché la figure de son père. Malheureusement, il a été pris en 43.
Rien n'est banal dans le parcours de cette résistante qui a tenu l'une des positions les plus exposées de la guerre. Il s'agit d'un exploit d'autant plus remarquable que le fait d'être une femme pose sur sa route des obstacles supplémentaires.
Vous n'avez pas osé dire aux Anglais que vous étiez une femme.
Oui, au début. Oui, ça, au début, je me suis dit qu'ils allaient m'envoyer balader et que tout ce que nous avions si péniblement depuis un an mis sur pied allait disparaître. Ça, je ne pouvais pas tolérer cette idée vis-à-vis des gens qui nous avaient suivis et qui étaient déjà proches de la centaine en juillet 41. Alors, il a fallu que je me camoufle.
Et vous avez avoué qu'au dernier moment.
Eh bien oui, quand j'étais en Espagne, sinon ça aurait peut-être pu durer toute la guerre.
Exactement.
Après tout.
Et si vous n'aviez pas été obligé de faire ce voyage aussi rapide, ils auraient eu la surprise en arrivant.
En arrivant, en me trouvant non pas moustachu comme il l'avait supposé, mais une femme.
Une femme. Une femme qui a réussi à être un soldat.
Oui. Mais je n'étais pas seule, vous savez. Beaucoup de femmes ont été des soldats, et de très très beaux soldats, parce que, au fond, je crois que la femme est très courageuse de nature. Elle a davantage l'habitude de la souffrance que l'homme. Elle est moins effarouchée par exemple, la perspective de souffrir de tortures ou de coups, ou même de douleurs morales. La femme est plus concernée que l'homme parle la souffrance d'une manière générale et ancestrale. Donc, dans la clandestinité, les femmes ont fait preuve d'un courage fantastique. Nous n'avons jamais été trahis par une femme. Une femme n'a jamais faibli devant l'ennemi. Et toutes mes amies, certaines sont mortes, et d'autres que j'ai eu le bonheur de revoir, qui ont été torturées, n'ont jamais dit un mot. C'est extraordinaire.
Dans ce réseau, on a donc fini par découvrir qu'elle était une femme.
Oui, et tout le monde était extrêmement étonné, mais en même temps, encore une fois, c'était finalement une très bonne couverture, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir une femme pour chef de réseau. Par ailleurs, le réseau Alliance était aussi très spécifique, parce qu'on y trouve un quart de femmes. Et c'est vrai qu'aucune n'a trahi.
Ils furent 413. 413 hommes et femmes du réseau français de renseignement L'Alliance à payer de leur vie et dans d'atroces tortures pour la plupart, leur attachement à la liberté, leur croyance en la France, leur dévouement sans limite au service des Alliés. Les survivants ont fait dire aujourd'hui en la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre une messe solennelle à l'intention de leurs camarades disparus.
Les trois chefs militaires ont été tous trois incarcérés, condamnés à mort et déportés par la Gestapo. Le commandant Loustono Lacot et le commandant Paul Bernard ont pu être délivrés par les troupes alliées. Le commandant Faye a été massacré à Sonnenburg après 16 mois de cellules et de torture. Madame Méric, que l'on connaissait sous le nom de Marie-Madeleine, directrice du réseau de 1940 à 1945, va vous adresser quelques mots.
Je désire que les familles qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui soient assurées de notre sympathie profonde. Tout notre dévouement leur est acquis. Je tiens à ce qu'elles sachent bien que le sacrifice de nos camarades disparus était nécessaire et que 1000 témoignages prouvent qu'il a été utile. Gloire à ceux qui n'ont pu supporter l'humiliation de la défaite. Gloire à ceux qui ont su choisir le chemin de l'honneur. Gloire à ceux qui sont tombés en forçant la route de la victoire.
C'était le 30 novembre 1945 et Marie-Madeleine Fourcade rendait hommage aux 431 morts de son réseau Alliance, un bilan évidemment très très lourd. Comment est-ce qu'elle a évolué politiquement après la Seconde Guerre mondiale, Véronique Chalmé?
Je pense qu'elle n'a pas eu la carrière politique qu'elle aurait pu avoir parce que finalement, elle était plus intéressée par la continuité de ce qu'elle avait fait dans son réseau. Et c'était pas quelqu'un qui recherchait l'intérêt personnel, les honneurs, etc. Et puis, peut-être a-t-elle été aussi un peu déçue par la politique de l'après-guerre, puisque ses valeurs cardinales, c'était l'honneur, la loyauté, la dignité. Bon, des valeurs qu'on pourrait encore rechercher aujourd'hui en politique. Et donc, elle est restée surtout très fidèle à De Gaulle. Elle disait que, d'ailleurs, que pour elle, De Gaulle, c'était une morale. Je pense qu'elle était plus fidèle à cette morale qu'à l'homme lui-même, puisqu'il avait tourné le dos un petit peu à son réseau au début de la guerre. Il était en désaccord avec Loustono Lacot, il l'avait toujours été, et donc il n'avait pas souhaité être mêlé à leur réseau, finalement. Donc voilà, mais ça n'a pas empêché Marie-Madeleine de s'investir beaucoup pour De Gaulle, et puis aussi d'être députée européenne. Et je pense que ça correspond chez elle à cette ouverture sur le monde et cette ouverture d'esprit qui la caractérisait.
L'Europe, à mon sens, ne peut pas tout de suite être un continent soudé et sans frontières. Il y a encore les patries pour longtemps.
Oui.
Croyez-le. Elles existent et elles se montrent. Il n'y a pas que moi.
Alors, votre meilleur espoir?
C'est que les Français se rendent compte qu'il n'y a pas que des week-ends, des vacances.
Vous parlez de l'école?
Je parle de tous les Français, les parents qui profitent des vacances des enfants pour s'en aller aussi.
Et le point culminant de votre vie?
Le point culminant? Mais je crois que j'y suis pas arrivé. Non, le point culminant, c'est de réussir ce qu'on fait. Il n'y en a pas d'autre dans l'existence. Il faut réussir ce qu'on a entrepris.
On s'en rend compte, depuis le début de cette série, les changements de camp se font plus spectaculaires dans les périodes les plus troublées de l'histoire. C'est pour cette raison que nous allons poursuivre notre exploration en nous concentrant sur un moment particulièrement propice aux volte-face, celui de la guerre d'Algérie, et en commençant par l'histoire du général de Bollardière, parachutiste devenu antimilitariste. C'est à suivre.